Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma. Un masque que je dédie avec émotion à celui qui en fut l'animateur de 1982 à 1989, l'insolent, le coruscant, le jazzy Pierre Bouteiller, qui avait eu la générosité, ou plutôt l'indulgence, de me laisser son micro. C'était il y a longtemps, c'était il y a 27 ans. Pierre, ce séducteur des ondes à la voix de crooner, qui fut à la direction des programmes de notre chaîne, le militant d'une grande radio culturelle, populaire et impertinente, dont le masque et la plume a toujours été le symbole.
Je l'écoutais à la radio comme tout le monde. Et dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais imaginer qu'un jour, je couperais la parole à Daniel Eman, je dirais à Odile Grand Shut Up, parce qu'elle ne comprend que l'anglais et défendait uniquement les films américains, et que j'essaierais vainement de demander un peu de bonne foi à Siglier, etc.
Pierre, on t'embrasse tous ici et on va essayer de continuer avec cet esprit facétieux. Et cette passion du débat que tu nous as à tous légué. Au programme ce soir, Citoyen d'honneur, La cité perdue, La confession, Le secret de la chambre noire, L'autre côté de l'espoir, Chacun sa vie, Grave. Et autour de moi, Daniel Eman de Marianne, Pierre Murat, Pierrot de Télérama, Alain Rioux de l'Obs et du Vélo Cycloclub de Saint-Mandé, et puis avec Éric Neuhoff du Figaro. Éric qui publie Costa Brava chez Albin Michel, où il romance ses souvenirs d'été catalan avec une mélancolie que Claude Sautet, à mon avis, aurait beaucoup aimé. Claude Sautet, d'ailleurs, qui a une place importante dans le roman, puisque César et Rosalie, qui est aussi mon film culte, y occupe une belle partie. Voilà. Et dans le courrier de la semaine, à propos du silence de Scorsese, un courrier qui va faire plaisir à Pierre Murat, Christophe Savry de Lorient nous écrit « Je suis athée, mais je bénis Pierre Murat d'avoir sauvé le somptueux silence. Ce film va au tréfonds de l'âme, c'est d'une humilité et d'une grâce qui rappelle le troublant innommable de Beckett, un chef-d'œuvre. Monsieur Shapiro s'étonne des propos tenus par les critiques du masque, à l'exception de Pierre Murat. On est très loin d'un grand film, mais cela reste du grand Scorsese. Sujet original, une maîtrise hors pair de la mise en scène et reconstitution historique époustouflante. Curieux, ajoute Élise Trandy, de vous voir troublé par une histoire qui, loin d'être apologétique, s'interroge sur l'absence de Dieu. Et Audelin Chapuis nous écrit, Jean-Marc Lalanne juge problématique que le peuple chrétien y soit présenté comme victime, jamais bourreau. Jugerait-il aussi problématique qu'un film présente le peuple chrétien comme bourreau, jamais victime, car les martyrs chrétiens sont encore nombreux aujourd'hui, ne l'oublions pas. Et Monsieur Hautefeuille ajoute, ce n'est pas parce que l'Inquisition a eu lieu que le sort des chrétiens martyrs au Japon ne mérite pas d'être connu ou qu'il faudrait nier la réalité de ce que fut leur supplice. Cécile Delattre est même très en colère. Que ça ne vous intéresse pas, soit. Que vous critiquiez le scénario de Scorsese, le jeu des acteurs, très bien. Mais parlez-nous de cinéma au lieu de cracher sur les chrétiens pour vernir votre image d'intello bien pensant. Seul le gendre fait de la résistance. Je te le dis quand même, Pierre. Hein. Ce Scorsese est d'une lourdeur achevée, du pathos au kilo, de la complaisance. J'ai tenu 37 minutes avant de m'éclipser devant ce pinsum. Donc tu vois, tu as quand même plus de partisans que d'opposants. Et pour finir, justement, toujours pour toi, Pierre, un message de Bernard Lowe qui te fera plaisir, puisque cet auditeur nous écrit dans Science et Vie de janvier. On apprend que le professeur de psychologie à l'Université de Californie, Nicolas Christenfeld, a conduit une expérience démontrant que le spoiler, celui qui révèle la fin d'une histoire, accroît le plaisir de la découverte. Ce qui confirme le fait que nous aimons revoir nos films préférés, dont César et Rosalie. Alors, de grâce, cher masque, arrêtez d'interrompre Pierre Murat et laissez-le raconter la fin d'un film.
Ouais!
Oui, sauf que si tu le fais, je vais encore avoir d'autres auditeurs qui vont se plaindre. En tout cas, je te le signale, c'est dans Science et Vie. Et on commence avec le premier film de la jeune Julia Ducournau, 33 ans, dont le film donc Grave affole tous les festivals depuis la semaine de la critique où il a été présenté à Cannes en mai dernier. Un teen movie anthropophage dont certains journaux ont écrit qu'il faisait s'évanouir les gens dans les salles. L'héroïne, Justine, c'est Garance Marillier, il faut dire qu'elle est assez formidable. Elle est végétarienne, elle a été élevée dans la phobie de la viande par ses parents qui sont vétos, et elle s'apprête, elle aussi, à entrer à l'école vétérinaire où il y a déjà sa sœur. C'est quand même une famille un peu bizarre. Hein. En guise de bizutage, elle doit bouffer de la viande crue. Exactement, c'est un rein de lapin.
Cru. Mais mort.
Et en plus, il est mort.
Heureusement, pauvre bête.
Même Night Shyamalan, le réalisateur de Split, a tweeté au moment du festival de Cannes que Grave est puissant, dérangeant, tabou, osé dans sa forme et son approche du cannibalisme. Et il ajoute, ça m'a bien perturbé. Pierre, ça va ?
Oui. Oui, très bien. Ça va ? Très bien.
Je vois que tu as mis ta chemise canadienne. Je dis ça pour nos auditeurs aujourd'hui.
Ah,
qui ne seraient pas équipés d'une. Oui, un peu, non ?
Oh, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais enfin.
Grave, qu'en as-tu pensé ?
Je suis un peu perplexe. C'est-à-dire que je trouve le thème tout à fait intéressant, audacieux, comme ce qui a été, qui vient d'être dit. Je trouve que le traitement, en revanche, de mise en scène est un petit peu scolaire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle a voulu faire un teen movie.
C'est théorique.
Ça, voilà, c'est ça qui l'intéresse, c'est de faire en effet un teen movie avec des péripéties qu'on a vues dans tous les films américains, une fin que je ne raconterai pas, mais qui renvoie à d'autres, enfin à une suite possible, enfin une surprise, un choc, comme ça, ça une choc à la fin. Donc ça respecte les règles du film de genre et de teen movie. C'est, alors encore une fois, tout ce qu'elle dit me semble original sur l'anthropophagie, le sang, le passage évidemment de l'adolescence à l'âge adulte, les rapports entre frères et sœurs. On peut en faire une thèse et je pense qu'on va en faire très très vite des thèses. Le petit problème, c'est que moi je l'ai vu après le buzz fantastique de Cannes, là il y a quelques semaines.
Tu l'as pas vu à Cannes.
Et voilà, je suis sorti de là en disant, ce n'est que ça. Voilà, c'est bien, c'est original, c'est intéressant. L'actrice est formidable, mais ce n'est que ça. J'ai peur un petit peu, parce que là, tu as déjà des détirantes, mais là, je vois ici, sexy, délirant, une bombe. Enfin, non, c'est pas tout ça. C'est un premier. Si on était dans un cinéma qui était peut-être pas non, un petit peu faible, on dirait
pour
très prometteur, très, très
pour
bien.
Un cinéma de 33 ans qui. Ah, c'est vrai
mais c'est très bien.
Sort de la fémise, donc d'où peut-être un peu parfois le côté théorique, mais c'est assez impressionnant pour,
c'est
un,
impressionnant,
pour un premier geste.
Je sais pas, je trouve ça un peu classique et théorique sur le scénario.
Ça t'a mis en appétit, je suis sûr.
Oui, je suis un petit peu d'accord avec Pierre, mais pour un premier film français, c'est quand même plus original que l'habituel. Titine rencontre Toto, ils vont se droguer un peu, aller dans un squat et puis braquer une banque.
C'est pas
là, le hiatus entre le sujet et la forme est aussi assez rigolo. Ce teen movie, ce côté et la tendresse bordel avec un film gore, ça fonctionne assez bien. Le pitch, c'est assez facile à résumer. Hein, c'est,
je l'ai fait. Hein,
tu aimes ta grande sœur, reprends-en. C'est ça, en gros. Alors, d'ailleurs, si on aime sa sœur, il faut commencer par le petit doigt. Hein, c'est une règle, parce que tout ça est très expliqué. Et c'est un film assez culotté, parce qu'on voit...
Enfin, et déculotté aussi. Hein.
Oui, mais on voit quand même un éloge du bizutage. C'est ça qui est aussi frappant. Moi, j'aime beaucoup les bizutages.
C'est interdit maintenant, je crois. Hein.
Oui, mais c'est idiot, parce que ça formait les gens à tout un tas de trucs. Après,
plus rien
ne pouvait leur arriver. Non, mais d'ailleurs, je crois que en veto, si je me souviens bien, c'était les classes où le passage était le plus rude.
Mais t'as jamais été veto, pourquoi?
Oui, mais j'étais en prépa et je voyais ce qui se passait chez les vétos, où ils étaient obligés de boire des bassines de vomi, des choses comme ça. Et elle a été obligée d'édulcorer un peu pour.
Je crois que c'est les médecins le pire, je crois.
En veto, c'est costaud parce qu'il y a les animaux, comme on voit dans le film. Et c'est un film qui rappelle en version très très saignante La crème de la crème, qui était sorti il y a 2-3 ans sur l'ambiance qu'il y avait à HEC. Et je suis un peu désolé par la dernière image qui me semble complètement superfétatoire. Je ne dirai pas ce que c'est.
C'est une image.
Ouais, oui, mais elle est un peu trop.
C'est une image.
Bon. Et c'est un film de drive-in dont on sort couvert d'hémoglobine, mais en se disant que si elle continue dans cette voie-là, Julia Ducournau va faire des petits et qu'elle a du talent, elle est original, mais il ne faut pas que tous les dithyrambes qu'on entend en ce moment lui montent à la tête, parce que c'est quand même un peu trop.
Ni voir le film avant d'aller dîner, je pense que c'est mieux de le voir après. Ou,
ou avant un whisky, on dit juste un doigt.
Voilà. Daniel.
Mais oui, moi je trouve quand même qu'elle a du toupet et que voilà. Alors peut-être c'est un
je
peu
rappelle, 33 ans.
Voilà, hein. Non, c'est peut-être survendu, mais moi je trouve que esthétiquement c'est assez extraordinaire et que le bizutage, la chorégraphie du bizutage permanent de cette violence, et quand même ça pose des bonnes questions. Quelle est sa vraie nature? Alors effectivement, tout le monde n'a pas cette nature-là. Qu'est-ce que c'est en effet de passer de l'adolescence à la féminité, qu'est-ce que c'est que le plaisir de la chair et le goût de la chair, faire un film cannibale pour un premier film avec une jeune actrice de Garance Marillier.
Elle est formidable, Garance Marillier. Hein, voilà, parce qu'elle, elle ose tout. Hein.
Elle ose tout, avec un petit visage fermé. On se dit, mais c'est pas possible. Eh ben si, elle y va.
Elle a un visage de végétarienne.
Elle, totalement. D'ailleurs, elle dit, je suis végétarienne. Alors, le rognon de lapin cru, c'est vrai que, effectivement, ça donne des idées. Mais moi, je trouve que c'est à la fois esthétiquement et sur ce que ça dit, vraiment audacieux, et que c'est vraiment intéressant.
Alain ?
J'étais un peu inquiet pour cette jeune personne parce que la statistique nous apprend que la plupart des jeunes cinéastes français commencent par un film autobiographique. Alors j'espère pour elle qu'elle saura se limiter par la suite, mais j'ai trouvé ça... j'ai toujours professé qu'un bon film doit être un film mordant. Donc je serais malvenu aujourd'hui de dire que, enfin, en le voyant passer, je me disais que c'était quand même un petit peu fort de café, un petit peu tiré par les cheveux. Mais, et puis je me suis rappelé que j'ai vu il y a 2 ou 3 ans à Orsay une exposition de peinture assez formidable qui s'appelait L'Ange du Bizarre. Et il y avait en peinture des images, en particulier de Goya, qui ressemblaient étrangement à ce film. Et donc, je crois que ce film, qui est très bien fait, est quelque chose d'assez grand.
Grave, qui signe donc les débuts de Julia Ducournau. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public? Non, très différent de style et de fond. La confession de Nicolas Boukrieff. Il faut dire qu'il lui aussi, avec Va mourir ou Made in France, ne nous avait pas laissé penser qu'un jour il s'attacherait à entrer dans une église. Et c'est l'adaptation du roman autobiographique de Béatrix Beck, très grand écrivain, pas assez connu à mon avis, Léon Morin-Prête, qui avait reçu le prix Goncourt en 1952, et que Jean-Pierre Melville avait porté à l'écran en 1961, et en noir et blanc, s'il vous plaît, avec Jean-Paul Belmondo. Emmanuel Riva, ici c'est Romain Duris qui porte la soutane, et l'ex-égérie de la joaillerie Chaumet, Marine Wacht, qui incarne la jeune communiste athée. L'histoire, ça se passe, vous le savez sans doute, dans un village de la France occupée, où arrive le père Léon Morin pour prêcher la bonne parole avec une conviction, mais aussi avec un charme, qui va bouleverser la jeune et jolie Barney, dont le mari est prisonnier en Allemagne. Alors dans le roman et dans la vraie vie de Béatrice Beck, en fait, elle était veuve d'un mari juif qui avait été tué en 1940. Alors pour ma part, je me serais bien passé du préambule et de l'épilogue. Alors là, il faut expliquer qu'on voit un jeune prêtre être appelé au chevet de Barney mourante pour recueillir sa confession. Mais j'ai été déçu en bien par le couple Duris-Wacht et par la lumière du film que j'ai jugé presque spirituel. Daniel.
Alors moi j'ai été enthousiasmée en mal. non, parce que effectivement, on va pas dire ah oh, mon Dieu, Jean-Paul Belmondo t'es tellement meilleur, ah oh, Emmanuel. Non, c'est pas.
Est-ce
du
que
tout
tu l'as
ça.
Revu? Parce que moi je l'ai revu.
Non, je l'ai pas revu et donc je ne permets pas de dire c'était mieux avant.
Ah bon?
Non, pas du tout. Et effectivement, je trouve assez audacieux de la part de Boukrieff de passer du film d'action
de Made in France,
à la confession.
À Léon Morin.
Bon, mais j'ai trouvé l'énorme défaut de ce film, c'est-à-dire que je n'y ai ressenti aucun trouble. Et ça, c'est le péché mortel.
C'est-à-dire trouble pour Léon Morin-Prête ou pour
Non, mais pour cette histoire d'amour qui ne peut pas dire son nom, entre un prêtre et
c'est pas une histoire d'amour, attention.
Enfin,
hein.
C'est le trouble absolu, le trouble absolu d'une jeune femme communiste en plus, oh là là, qui tombe quand même très amoureuse de son curé. Bon, alors il parle énormément, les Allemands sont très très méchants, et les pauvres résistants... Ah, mais l'histoire...
Là, tu parles de l'histoire, mais l'histoire, elle est vraie.
Mais oui, mais l'histoire, justement, tout est tellement exposé, voilà, tout est à sa place. Les Allemands sont à leur place, les résistants sont à leur place, le curé est à sa place, très propre sur lui, Romain Duris, j'y crois. Pas une seconde, moi je suis désolée.
Marina Wacht... Tu penses à l'arnaqueur, mais tu penses
non,
pas.
Probablement, mais Marina Wacht est belle comme le jour. En plus, je trouve qu'il y a des problèmes de scénario. Bon, c'est une petite communiste pure et dure. Elle gifle, elle est employée à la poste, elle gifle sa chef de service. Le lendemain, elle reprend son poste, tout va bien, à la poste. Voilà.
Mais non, c'est pareil dans le Melville et c'est formidable.
Mais non, c'est pas
dans
bien.
Le Melville,
mais, c'est...
Elle,
mais oui, mais on n'y croit pas.
Tu juges l'histoire, là.
La fille. Non, qu'elle gifle et charmée. Et c'est brusquement dans le film un moment de vérité, c'est-à-dire quelque chose d'illogique mais... qui correspond à la vie humaine.
Mais oui, ça, mais sauf passage. Que dans le Melville, on y... Alors, excuse-moi, mais sauf dans le Melville, dans mes souvenirs, on y croyait. Et là, je trouve que tout est appliqué, tout est reconstitué comme il le faut, et je n'ai trouvé aucun trouble. Et c'est quand même une histoire.
Alors, juste une
de
chose,
trouble.
Mais j'ai revu le film de Melville, oui. Et je trouve que Duris est plus convaincant, paradoxalement, en curé que Belmondo. Alain.
Moi, j'ai trouvé que la partie confession, c'est-à-dire le texte, c'est, en réalité, c'est le texte de Béatrix Beck, c'est absolument formidable, c'est très très bien. Et je trouve l'actrice merveilleuse. Elle a une profondeur, elle a une beauté. C'est une preuve de l'existence de Dieu. Moi, Duris, c'est pas que je l'ai trouvé mauvais.
Je pas jusque-là.
Oh, mais écoute, comment peut-on imaginer que... Enfin, ça ne peut que tomber du ciel, des créatures comme ça.
Oh,
mais
Duris...
Ça te rappelle des souvenirs, tout ça.
Moi, mes souvenirs de confession datent quand même d'un peu longtemps. Mais, enfin, j'ai été un homme autrefois.
Ah
et
bon
je
ah
peux
bon
être.
Enfin, une bonne nouvelle.
Un communion.
Non. Duris, il y a un problème. Autrefois, les acteurs, on les reconnaissait au fait qu'ils étaient glabres. Et depuis que les acteurs portent la barbe, c'est très embêtant parce qu'on ne voit plus leur expression. Et Duris, on voit une espèce de buisson. Et franchement,
Ardent.
Non, c'est vrai, Ardent, mais Buisson quand même. Mais la partie confession, enfin, je trouvais plutôt.
Tous les acteurs ne portent pas la barbe. Qu'est-ce que tu racontes?
Non, enfin, autrefois, les acteurs ne portaient pas la barbe parce qu'il fallait qu'ils s'en collent des différentes. Et ils avaient, jouvaient.
Hein.
Je suis désolé, mais jouvaient. Quand ils jouent, il a de l'expression. Belmondo, il a de l'expression.
À ton époque, au moment de la sortie des usines, il n'y avait pas beaucoup
Duris,
de barbe.
C'est une barbe d'où sort du bruit. Alors, c'est très difficile de juger un acteur là-dessus.
Pierre.
Je trouve, moi, que je partage un peu l'avis de Daniel. Je trouve qu'il s'en sort à peu près bien, c'est vrai, parce qu'il y a Duris, parce qu'il y a elle. Il me semble, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, le film de Melville. Dans mon souvenir, le couple Emmanuel Riva-Belmondo était plus fiévreux, plus ardent que celui-là. Mais celui-là est très beau et leur lutte est aussi intéressante. Le petit problème, c'est que je trouve que c'est un rien trop beau. C'est trop propre, trop esthétique, trop... Tout est absolument magnifique. La photo, tu l'as dit, est absolument...
C'est de la lumière, pas de la photo,
lumière,
de la lumière.
Oui,
enfin... Aussi bien dans l'église qu'à
oui,
l'extérieur,
ben c'est ça. Très belle. Oui, c'est ça. Oui, enfin, moi, je dis le chef de la photo et a fait un très, 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 très bon boulot. Ça manque, pour moi, et de chair et d'intensité. Et alors, le début et la fin, mais pourquoi Barney, vieille, confitelle, simplement pour montrer qu'il y a des Léon Morin prêtres actuellement ou presque, qui sont aussi beaux que Romain Duris dans le film. Je vois pas l'idée qui a présidé à ça. Le roman...
Alors, je crois que la vérité, c'est que comme il n'avait pas le droit d'utiliser... Il n'a pas eu les droits, donc, pour utiliser le titre du roman de Béatrix Beck, c'est-à-dire Léon Morin prêtre, d'où le
fallait
titre...
Une confession.
Il fallait une confession. Et la confession, c'est la confession de la pauvre Barney en train de mourir.
D'accord. Mais voilà, en tout cas, le roman de Béatrix Beck, que j'adore, était un roman avec une cassure...
Ah oui, entre même une gouaille.
Oui, une gouaille, c'est ça. Et alors là, même dans le roman, dans le film de Melville, elle n'existait pas, mais alors là, elle existe plus du tout.
Éric.
L'auteur dit que ça n'est pas un remake, mais c'est quand même culotté, parce que c'est un décalque, à part le début et la fin.
Ah, mais, presque... non, mais il ne s'en cache pas, mais il dit qu'il n'a pas pu utiliser le titre.
Mais il n'a pas pu utiliser le titre, mais il a pu utiliser tout le reste. C'est ça qui est curieux. C'est vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Je trouve que c'est une assez bonne surprise, parce qu'on n'attendait rien de Boukrieff. Et il y a un petit quelque chose, moi je ne suis pas du tout fanatique de Duris, il s'en tire pas si mal. Il arrive à être assez émouvant, ambigu, Et puis, il y a Marine Watt, là, qui est quand même, moi, la révélation des 10 dernières années. On en parlait avec Ozan l'autre jour. Cette fille a un visage, mais qui me ferait prendre la carte du PC aussitôt. Là, je deviendrais marxiste, je lirais toutes les œuvres complètes.
C'est dire.
Et oui, je la détournerais du confessionnal pour aller en réunion de cellules.
Le PC pour l'un.
Je serais bien son curé aussi.
Oui, c'est la promesse de l'aube. le film est intéressant, un petit peu démodé, un petit peu trop reconstitution, bien léchée, le village, la poste. L'ambiance du travail n'est pas très bien rendue, mais le face-à-face des deux est très réussi. Il se passe vraiment quelque chose là dans ce clair-obscur dont tu parlais, Jérôme.
Tout d'un coup,
il y a une sorte de lumière qui peut jaillir, surtout du regard ou des silences de Marine Watt.
La confession, c'est Nicolas Boukrieff. Pas de réaction sur ce film. La cité perdue de Z, The Lost City of Z, c'est tiré du livre de David Graham, le nouveau film de James Gray, avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, James Gray, qui retrace, et il faut le savoir, avant, pendant 2h20, l'aventure du véritable Sir Percival Harrison Fawcett, dit Percy, ce colonel de l'armée britannique, de la Royal Société de Géographie, a envoyé au début du XXe siècle en Amazonie pour cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie, en fait de frontières. Fawcett, c'est donc Charlie Hunnam, trouve la trace d'une cité perdue qui serait vieille de 6000 ans, retour à Londres. Il est moqué, étrangement, par la Société de Géographie, et il va disparaître lors de sa 7e ou 8e, je ne sais plus, expédition en 1925. Film d'aventure, mais aussi, on l'a compris, film critique sur le colonialisme, l'impérialisme. Ça, James Gray en parle beaucoup dans ses entretiens, qui ont tant méprisé les civilisations primitives. Eric, as-tu aimé ?
Ah oui, beaucoup. Je l'ai vu deux fois déjà.
Deux fois ?
Oui.
5 heures, donc.
Oui, mais pas d'affilée. Hein. Et non, j'ai trouvé que c'était un film très fort, très profond, original aussi, qui surprend de la part de James Gray.
Oui, parce que Little Odessa, l'immigrant...
Mais on retrouve quand même certains des thèmes, l'obsession, justement, et puis les histoires de famille. La paternité, le rapport père-fils à la fin, cette femme qui le soutient contre vents et marées, qui reste seule à élever sa famille avec ce côté Pénélope, hein, pas celle de Fillon, hein, mais celle d'Ulysse. Et c'est Sienna Miller. C'est un film où il n'y a que des acteurs inconnus, à part elle. C'est Brad Pitt qui devait jouer le rôle principal. Heureusement, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas
ça
fait.
Ça devait être Brad Pitt ? Ah oui.
Mais il est resté producteur du film, mais le nommé Hunnam est très très bien.
Charlie Hunnam.
Ouais. Et Sienna Miller, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu une actrice épatante là-dedans. Elle est là, déchirée, droite comme un menhir sur la lande. Et le film vous emmène...
Droite comme un menhir sur la lande.
Oui, elle se dresse comme ça. Non, il y a plein de choses là-dedans. Il y a le complexe de classe, parce que cet explorateur, son père, visiblement, était un déclassé qui jouait et qui buvait. Ce qui fait que lui n'est reconnu par personne dans la haute société. Il y a une scène d'ouverture magnifique, une chasse au cerf fabuleuse et une scène d'humiliation pendant la soirée qui suit. Et tout ça, c'est une histoire de revanche, d'obsession et d'un type qui doute mais qui ne l'avouera jamais et qui va s'enfoncer dans la jungle de ses pensées, dans la jungle de ses songes, jusqu'à y périr sans doute. Mais c'est un film très très beau avec une boussole qui sert de rosebud comme dans Citizen Kane. C'est un film magnifique.
C'est tiré, je le disais, donc d'un roman qui d'ailleurs reparaît, je vous le dis, en poche, hein, en point seuil. Mais c'est un roman sur une histoire totalement vraie. Hein.
Oui, mais dont on ne sait pas tellement les tenants et les aboutissants et pour cause.
Non, mais dire qu'il a existé vraiment.
Il a existé, mais on l'a jamais retrouvé, on n'a jamais su.
Daniel.
C'est évidemment somptueusement beau. Et effectivement, bien que ce ne soit pas du tout dans le style des précédents James Gray, et personnellement, moi, je suis plus bouleversée par The Yards, par Lovers, par La Nuit nous appartient. Bon, ça, c'est mon James Gray. Mais là, ça dépasse, évidemment, en beauté, en profondeur, et on y retrouve, en effet, ses obsessions. Alors, effectivement... Il dit, il y a toujours son obsession des liens familiaux, de la paternité. Tu dis qu'il n'y a pas d'acteur connu dans ce film. Si, il y a un recyclage quand même de Robert Pattinson,
oui,
le petit vampire de Twilight, et puis jouant un des fils de l'explorateur. Il y a quand même Tom Holland qui a été Billy Elliot. Donc voilà, il y a un recyclage des stars enfants ou adolescents qui est assez adorable. Non, ce qui est très très beau, c'est le propos profond du film, c'est-à-dire cette utopie, ce mirage de la cité perdue qui est pour essayer de prouver que les 10 sauvages auraient beaucoup à apprendre aux 10 civilisés. Et ça, c'est la profondeur de ce film qui, sur le plan de l'image de la forêt, des dangers inouis, des crocodiles, le son, le bruissement, c'est magnifique, voilà.
Alain, j'avais lu cette histoire quand j'étais petit dans Tintin ou dans Spirou. J'avais trouvé
t'es
ça
très, beaucoup... t'es très nostalgique.
Oui, oui, j'avais trouvé ça beaucoup plus intéressant à l'époque.
Ah bon ?
Ah oui, oui, j'ai pas du tout aimé ce film. Je l'ai pas aimé pour une raison simple,
peut-être
c'est que
tu l'as
c'est
pas
une
compris.
Suite. Peut-être que j'ai pas compris. J'ai surtout entendu une suite de discours. C'est-à-dire, ce type s'adresse à sa femme, c'est bien, mais on dirait qu'il s'adresse pas à sa chérie, mais à la postérité. Tout ce qu'il dit est absolument marqué par le... D'ailleurs, il y a énormément de discours dans le film, il y en a énormément devant la Société de Géographie. Ça n'est presque pratiquement que ça, et
ah
ça
bon
m'a vraiment
tu dormais dans la jungle alors.
J'ai l'impression, pour vous donner une idée de ce que c'est de ce qu'est le film, c'est de vous dire ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'adresse ici avec un vif regret.
C'était l'époque aussi, c'était
à cette, à nos merveilleux éditeurs pour auditeurs pour leur conseiller de rester légèrement à l'écart de cette œuvre.
Je suis pas sûr que tu sois très
fier. Ah, je me suis emmerdé pour être
ça ensemble.
Ah oui, ça on a compris.
Pierrot.
Ben moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est ce qu'on a dit, Eric, c'est-à-dire les rapports de classe, c'est-à-dire le héros est méprisé par l'aristocratie anglaise, mais lui-même traite de haut un tout petit peu sa femme. Je sais pas, toi, tu dis qu'il lui parle avec condescendance ou je sais pas quoi. Mais
non, il lui fait des discours.
Il lui fait des discours. Ben, il la traite un peu de haut et il traite un peu de haut aussi lors du premier voyage les sauvages qu'il rencontre. C'était le propos de James Gray qui disait qu'il voulait développer la vision la plus complexe possible de toutes ces hiérarchies humaines.
Non, et ça, je trouve qu'il a réussi. C'est pas un personnage parfait. C'est pour ça que c'est passionnant.
Voilà, il réussit très bien. La petite réserve, moi, et Dieu sait que je suis un fan de James Gray, puisque moi je défends jusqu'au film que personne n'aime sauf moi, c'est-à-dire l'opéra avec Marion Cotillard qu'il avait fait, l'Immigrant que j'adore.
Ah oui, mais elle est formidable dans ce film.
Ben, elle est formidable dans ce film. Et ben, alors la seule chose, c'est que je trouve que ça démarre un peu lentement et que le premier voyage dans la jungle, il est un peu long et il ne s'y passe pas grand-chose. C'est un film qui progresse avec le temps, c'est-à-dire que le deuxième voyage est beaucoup mieux que le premier et le troisième est absolument magnifique et la fin, que je ne raconterai pas, est splendide.
Ah bon ?
Non, c'est Lost City.
Il sait toujours réussir ses fins. Ses films aussi, d'ailleurs.
C'est le film de James Gray, pas de réaction, un film que j'adore, qui s'appelle Citoyen d'honneur.
Oh.
Pas un grand film, mais c'est un film formidable, des Argentins Mariano Cohn et Gaston Duprat, avec Oscar Martinez, qui a été très justement d'ailleurs sacré meilleur acteur au Festival de Venise, dans le rôle de Daniel Mantovani. Mantovani, je le rappelle, est le seul Argentin, Eric, à avoir reçu le prix Nobel de littérature, que même Borges n'a pas réussi à obtenir. Alors ne cherchez pas, Mantovani n'existe que dans l'imagination de ces deux jeunes cinéastes. Il est ce prix Nobel installé en Europe, d'ailleurs il n'écrit plus, et puis il accepte de retourner à Salas, son village natal de la Pampa, pour y dévoiler sa propre statue et être fait citoyen d'honneur. Mais le voyage triomphal, il faut dire qu'il a très mal commencé parce qu'il est échoué dans la campagne argentine après une panne de voiture. Et le pauvre écrivain prix Nobel est obligé de bouffer des pages de son bouquin pour se réchauffer. Bref, ça va tourner au calvaire. La population n'en a rien à faire de sa venue. Ceux que ça intéresse, évidemment, s'offusquent de voir parader en ville un écrivain qui les a caricaturés dans ses romans. Ça va très mal terminé, je ne peux pas dire comment. C'est tourné un peu comme un doc caméra à l'épaule. Et c'est, je trouve que la tête de droupie d'Oscar Martinez ajoute à la drôlerie de ce film, Pierre.
Ah ben c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est déjà la scène où il est obligé en effet de déchirer une partie de son œuvre.
Quel début, ça on peut le raconter.
Se réchauffer, oui, oui, mais ça c'est une scène qui est magnifique. Et puis tout va aller de mal en pis. Ce qui est absolument génial, c'est que ce type, qui est assez insupportable, mais pas plus.
Il est surtout très désillusionné.
Oui. Oui, parce que son discours...
Ton discours à Stockholm.
À Stockholm, en recevant le Nobel, est déjà un grand moment de dérision, etc. Non, mais il est, mais en même temps, il se prend pas pour rien, et le fait qu'il accepte ce voyage va être un cauchemar. Et je trouve que c'est absolument fait comme un polar à l'américaine, c'est-à-dire que ça va de mal en pis, les gens qu'il rencontre sont de plus en plus énervés, et plus ça va, plus il se fait agresser, au point même que ça devient franchement violent. Voilà, c'est tout. Et donc il y a une espèce d'humour.
C'est le premier film où je vois des personnages de romans réels se rebeller contre leur créateur. Je trouve que c'est ça l'idée qui est formidable.
Oui, se rebeller et puis lui en vouloir. Voilà. Et voilà. Et donc c'est fait avec humour et désinvolture, ce qui est assez rare et précision en même temps. Je trouve que c'est un film tout à fait intéressant.
Alain,
oui, c'est intéressant, surtout la réflexion sur le pouvoir et les devoirs de l'écrivain. Mais alors, il y a un truc qui m'a beaucoup troublé, c'est probablement parce qu'il y a deux metteurs en scène dedans, et c'est que le début du film est extrêmement joyeux, drôle. Le livre, d'ailleurs, ne sert pas exclusivement à réchauffer l'atmosphère, mais à un usage plus humble, également dans le film.
Plus intime.
Oui, qu'il faut dire plus intime, et on est vraiment dans une dérision très très amusante, dont l'écrivain est un petit peu la victime, c'est bien. Et puis, au milieu du film, alors ça se renverse, et c'est d'une misanthropie absolument effrayante. Mais effrayante. Les personnages sont d'une bêtise, d'une méchanceté.
Mais non,
d'une férocité. Ah si, les personnages en vrai. C'est-à-dire qu'il pourrait se leur reprocher.
Dans toute son œuvre, il s'est moqué d'eux.
Mais il s'est moqué d'eux, mais il les a traités de plouques et ils se conduisent comme des bourreaux.
ils se conduisent
bien pire que le truc. Et ça m'a quand même un petit peu enlevé du plaisir.
Daniel.
Ah non, moi j'ai adoré. C'est un précipité d'intelligence sarcastique. Et c'est une réflexion extraordinairement pointue sur la volatilité de la réalité. Et la réalité de la fiction.
C'est le premier film que je vois sur ce sujet-là.
C'est extraordinaire. Hein. Et alors, effectivement, il refuse, il est prix Nobel de littérature, on lui propose des médailles, des honneurs partout.
Il refuse tout.
Son vieux trou là-bas, son petit village natal, son lieu dit Terne, l'invite pour le faire citoyen d'honneur, et tout à coup il dit oui. Sa secrétaire est éblouie, il arrive. Et effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est le passage de la dévotion immodérée à la haine absolue, parce que tous ses anciens copains, son ancienne fiancée, tout le monde s'est reconnu dans ses romans, et il a la plume acerbe. Et ce rapport entre la réalité et la fiction, c'est à la fois désopilant, ça tourne effectivement presque au fait divers, et c'est absolument réjouissant du début à la fin, dans sa cruauté et dans son talent. C'est extraordinaire.
Éric.
Oui, c'est très bien, parce qu'il faut toujours se méfier des films dont le héros est un écrivain, parce qu'il n'y a rien de pire.
En plus, on ne le voit pas écrire, c'est
voilà,
génial.
C'est ça qui est formidable. Il n'écrit pas.
Il ne peut plus écrire. Et voilà. Dans son discours de Stockholm, il dit « Ce prix Nobel signe la fin de ma créativité.
Voilà, » voilà.
Et du coup, on le
tu
voit
vivre. Tu verras, Éric, quand tu l'auras le prix Nobel de littérature.
Mais je ne sais pas où je retournerai.
Couper le sifflet, si moi je sais.
Et on ne le voit jamais écrire, donc il vit. Et le film n'est pas du tout littéraire. C'est une de ses qualités. Il y a un truc qui est très très réussi aussi, c'est cette petite ville où on se dit il va peut-être y avoir un type à la tronçonneuse qui va arriver là au bout de ce chemin, et c'est presque le cas, et c'est tous les petits à côté, on se retrouve un peu entre Vialat et Sempé par moment, la conférence, la statue qu'on érige à son effigie, le concours de peinture où il n'y a que des crousses et où il est obligé de choisir.
C'est assez méchant, ça.
Mais c'est tellement juste, c'est tellement vrai. C'est très très bien observé. Il y a ce droupi qui se promène et qui s'enfonce dans un pessimisme Et puis, il y a une naïveté aussi chez ce prix Nobel pas très sympathique, c'est qu'il va revoir son premier amour, qui maintenant a épousé un beauf qui roule en 4x4, qui lui sert un plat national qui a l'air... C'est pour du Cournot, ça. Des têtes de moutons éviscérées. Enfin, c'est un truc épouvantable. Non, le film est vraiment très, très fort. Et sur un écrivain, on a rarement fait mieux.
On vous conseille tous Citoyens d'honneur, donc des Argentins, Mariano Cohn et Gaston Duprat. Pas de réaction sur ce film. Allez, à quelques mots sur l'infatigable Claude Lelouch, qui persiste et qui signe, chacun sa vie, tourné dans sa bonne ville de Beaune, avec notamment, je dis bien notamment, Béatrice Dalle, Marianne Denicourt, maître Éric Dupont-Moretti. Ah, ici, il préside un tribunal, Johnny. On sent qu'il est plutôt à peine remis du film de Guillaume Canet que... il y a Jean Dujardin, il y a Christophe Lambert, beaucoup d'autres, hein. Film choral, évidemment, que je ne vais pas résumer.
C'est impossible.
Juste dire que Dupont-Moretti demande la main d'une prostituée à la retraite qui est Béatrice Dalle. Mathilde Seigné, la maîtresse d'un alcoolique joué par Christophe Lambert. Johnny tombe dans les bras d'une comtesse qui est Elsa. Ah, je ne l'ai pas cité, elle. Zilberstein. Puis sur le flic Jean Dujardin. Alors en prime, on a le docteur Jean-Marie Bigard qui explique aux infirmières que le rire est le meilleur médicament du monde. Venant de lui, c'est quand même très fort. Eric.
Bon, c'est du Lelouch, hein. Il s'est pas fatigué, mais c'est presque ça qui est sympathique. Il y a le côté impérial du type qui s'en fout, qui enchaîne les histoires, les acteurs.
Enfin, sauf qu'on a le droit de s'en foutre aussi.
Pas tout le temps, il y a des petites choses assez réussies. Il y a trop de musique, un peu trop de grosses caisses.
Ben ça se passe dans un festival de jazz.
Oui, oui, ça. Et c'est Liane Folly qui chante sans arrêt. Mais il y a des scénettes qui sont pas mal. Il sait faire ça, deux personnages qui s'engueulent de temps en temps. Mais là, vraiment, il s'est dit, on est en province, on ne va pas se crever.
En région. Bagasse.
Et en région, si tu veux. Et il y a aussi un petit peu quand même, son côté parisien, une méconnaissance de la province, parce que ça m'étonnerait.
Région.
Oh, mais c'est pas une insulte, province. Des petites villes. Ça m'étonnerait que, dans un endroit comme Beaune, le président du tribunal aille dans un bordel, et ça m'étonnerait aussi qu'il y ait un bordel en plein centre de Beaune. Je me suis renseigné, il n'y en a pas.
Moi, je vois très bien Dupont-Moretti y aller.
L'ouvrir, même.
Pierre.
Bah, c'est pas très bon, quand même. Hein. Non, c'est quand même, faut le dire. Parce que
Éric a l'art d'essayer de sauver ça, mais c'est...
Mais non, mais moi, on aime bien Claude Lelouch, tous certains de ses films. Quand c'est la bonne année, quand c'est le voyou...
Ça fait des années que c'est de Caraïbes dans Cid-là.
Voilà, et là, c'est quand même pas très bon. Parce que s'il y a un qui est bien, moi, je trouve, c'est Johnny.
Johnny,
oui, absolument.
Johnny est très bien. Ouais. Parce que non seulement quand il est sur scène, quand il chante, mais lorsqu'il joue à la fois lui et son sosie, il y a des moments de fantaisie avec Jean Dujardin et Antoine Duléry. Il y a deux, trois petites scènes marrantes. Mais enfin, tout le reste de Béatrice, d'Elsa Zilberstein, ils sont tous mais mauvais. Enfin, et puis ces personnages qui se croisent, enfin, ces hasards et coïncidences, comme dit Lelouch, et qui ont fait son œuvre. Et quelquefois, il a réussi ça. Mais là, c'est un peu n'importe quoi, franchement.
Daniel.
Bon, alors, il faut un préalable. Il faut avoir pour Claude Lelouch une affection, même quand il en renverse beaucoup. Moi, c'est une grande pagaille. J'ai compté le casting contre 65 comédiens. Alors, effectivement...
Enfin, comédiens et non-comédiens, parce qu'il y a de tout. Hein.
Il y a quand même des... Bon, c'est tous... Non, il y a des... Non, mais il y a des comédiens qui ont deux minutes de scène. Voilà, bon. Et effectivement, j'ai été extrêmement touché par Johnny. Effectivement, et il y a des scènes.
T'es insensible totalement, toi, à la confession, et t'es sensible à cette daube.
Oui, bah, écoute, c'est toi qui l'as dit. Effectivement, ce que fait Johnny Hallyday là-dedans, avec des scènes très drôles où il y a effectivement, on lui demande ses papiers, on lui dit. Mais il dit, je suis Johnny Hallyday, comme il y a toujours son sosie qui le traîne. On lui dit, vos papiers. Il se met à chanter, allumer le feu. Bon, très bien. Bon, moi, ça me fait rire. Alors, très bien. Effectivement, la confession, ça me fait pas rire. Bon, mais chacun son truc. Bon, alors, effectivement, je vous dis, il faut...
Johnny en Léon Morin, ça pourrait être marrant.
Ah oui, non, mais je veux dire, je dis qu'il faut un préalable et qu'il faut, avoir pour Lelouch une affection pérenne. C'est mon cas.
Alain,
écoutez, c'est pas un film, c'est un paquet de carambars. C'est présenté, mais vraiment comme ça.
Avec des blagues de Carambar, d'ailleurs.
C'est-à-dire que vous avez une sorte de bonbon, une confiserie, et une blague. À chaque fois, une blague. Il y en a une qui est très drôle, d'ailleurs, sur Jésus-Christ marchant sur l'eau.
Oh non.
Mais
oh non,
en dehors de Jésus-Christ marchant sur l'eau, toutes les autres sont assez mauvaises et vulgaires.
Enfin, des blagues de bigard.
Il y a donc, c'est comme. Alors ensuite, la confiserie, on la mange. Des fois, elle est un peu fondante. Des fois, elle est difficile à avaler, assez souvent. Mais enfin, bon, c'est comme ça. C'est un film qui ne ressemble pas aux autres.
Chacun sa vie, Claude Lelouch. Et puis, le retour, 6 ans après Le Havre, du Finlandais Aki Kaurismäki, avec L'autre côté de l'espoir, qui a reçu l'Ours d'argent à Berlin, le cinéaste de L'homme sans passé qui fait se croiser à Helsinki deux destins, celui de Khaled Ali, qui est un réfugié syrien qui a fui dans la soute d'un cargo l'enfer d'Alep, mais à qui les autorités refusent l'asile, et puis un Finlandais qui est Wikström, représentant en chemise, qui après s'être débarrassé de son épouse poivrotte et de son argent au poker, a ouvert un petit resto. Bon, je suis pas sûr que j'irai bouffer. Il sert des boulettes de viande et des sardines en boîte. Et puis un soir, Wikström découvre Khaled dans la cour. Et il le prend sous son aile. Il le protège même de l'armée de libération de la Finlande. C'est Kaurismäki en diable, mais comme on peut pas imaginer. J'ai trouvé ça très... Vraiment très, très émouvant, Pierre.
Ben, ce qui est formidable avec un film de Kaurismäki, Lelouch, c'est d'ailleurs pareil, mais Kaurismäki, c'est pour moi...
Ah non, tu peux pas comparer
Lelouch. Non, j'allais dire simplement que tu vois 3 plans d'un film, tu sais que tu es chez Lelouch, et tu vois 3 plans d'un film, et tu sais que tu es chez Kaurismäki. Cette façon de cadrer, cette façon de jouer sur les couleurs, cette façon de jouer sur les personnages.
Et les décors.
Mmh. Ce restaurant où on est fait, où le plat de luxe, c'est une boîte de sardines qu'on arrive là. Les personnages. Ce qui est absolument splendide à chaque fois, c'est que, en plus, il n'y a pas d'apitoiement. C'est très silencieux, puisque c'est lui, l'image compte pour Kaurismäki beaucoup plus que le dialogue, les répliques. Donc on va à l'essentiel de l'image, on va à l'essentiel des personnages. Ce n'est jamais misérabiliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons sentiments. Les gens sont quelquefois odieux, mais ils peuvent arriver à aider certains autres, leurs congénères, parce qu'il faut les aider, parce qu'il y a une certaine sympathie, mais jamais de mièvrerie. Il y a une espèce de hauteur dans ce cinéma et dans la vision
alors
de
que
Kaurismäki.
Ce sujet-là peut prêter à beaucoup
alors,
de complaisance.
Alors qu'il n'y a aucun cliché, c'est une espèce de ligne droite comme il sait le faire. Peut-être Le Havre, c'était un peu mieux, mais ça se discute. Enfin, c'est le retour d'un très grand cinéaste qu'on avait
perdu. Chez lui, en plus.
Alain.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Il se trouve que la Kaurismäki, c'est une province, une région, si tu veux, c'est un pays. Et c'est un pays où les gens ont une éminente dignité. C'est quelque chose qui est magnifique dans tous les films de Kaurismäki. Vous avez des ivrognes qui ont de la noblesse. Vous avez même là, même les policiers chargés d'expulsion ont de la grandeur. Et dans ce très très beau pays, dans ce très beau pays que tous les Kaurismäki, on peut aller les voir, il y a la même chose. Et on n'a pas encore inventé la vulgarité et la bassesse. Alors, on est bien.
Et puis, il y a une modestie de l'image. Je ne vais pas revenir sur Lelouch, mais quand on voit la modestie, la manière de tracer les portraits avec une modestie, mais exemplaire, Daniel.
Moi, c'est magnifique. Voilà, le cinéma de Kaurismäki, c'est toujours plus ça va mal, plus ça ne peut aller que mieux. Et donc, même dans... Et les 2 scènes d'ouverture, c'est incroyable parce que tout est dit. Voilà, tout est dit. Demandeur d'asile... Et divorcé, en 2 scènes, on voit émerger de la soute à charbon d'un cargo une ombre noire et maigre, c'est le jeune Syrien échappé d'Alep. Bon, voilà, demandeur d'asile, il arrive à Helsinki. Et puis on voit effectivement le futur propriétaire de restaurant, disons, élimé, on voit sa femme qui est en train de boire un verre et de s'alcooliser. Il pose le trousseau de clés et l'alliance sur la table. Jamais on n'a vu un divorce aussi rapide. Et c'est extraordinaire, voilà. Et effectivement, comment ces 2 destins qui veulent changer de vie vont se rapprocher, c'est le plus beau pessimisme gay qu'on peut imaginer.
Éric.
Bah, au moins, c'est reposant comme film. Vous ne trouvez quand même pas que c'est assez ramollo, ce truc-là. J'ai eu l'impression.
Ce truc-là, tu veux dire, le
ouais,
film?
Bah oui, ça, c'est un petit peu démodé. Ça sent quand même les années 80, 90. Moi, ça m'a fait penser, côté cinéma, à des cravates de Sky, comme les gens en portaient dans ces années-là.
Des cravates de Sky.
Ouais,
on n'a pas vu le même film, mais c'est pas grave.
Et côté esthétique, c'est un peu du Almodovar sous Bromure. Tout le monde est gentil. Tout
ah
le
non,
monde,
non.
Mais si, tout,
oh bah non,
sauf
les
vilains skinheads,
ah,
évidemment. Mais tout le monde marche doucement, parle à peine ou pas du tout. C'est bouleversant l'humanité.
Il y a l'alcool aussi. Hein.
Et il y a de l'alcool, oui, mais enfin, ça leur fait pas grand-chose.
Il y a des scènes drôles quand le restaurant essaye de se déguiser
là,
en japonais.
Le monsieur, il te dit le contraire. Hein.
Non, de temps en temps, ça va. Mais,
de temps en temps, ça va.
Pierre a raison, il y a un côté Lelouch, parce que toutes les 10 minutes, on doit se taper une chansonnette. Alors, soit c'est un guitariste dans la rue.
Il y a des vieux rock déchirants avec des musiciens hors d'âge. C'est formidable.
Le rock ne peut être ni vieux ni déchirant.
Sauf chez Coris Maki.
Oui, mais c'est quand même un peu ramolli, moi, j'ai trouvé. Pas désagréable, mais beaucoup trop long. Et...
Ah ben, tu donnes très envie, toi, Thierry. L'autre côté de l'espoir, Coris Maki, j'avais inscrit également Le secret de la chambre noire, long film français.
Ah oui, merci.
2h10 du japonais. Kiyoshi Kurosawa, une presse dithyrambique la semaine dernière pour ce film avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier Gourmet, d'ailleurs qu'on verra bientôt dans Sage-Femme, Mathieu Amalric hein, qui fait un passage, et Malik Zidi. Et voilà, c'est l'histoire d'un ancien photographe de mode qui est Olivier Gourmet, qui a perdu sa femme, qui vit dans une maison de la région parisienne avec sa fille Marie, qui est devenue son modèle, et que son nouvel assistant, qui est Jean, va essayer de libérer de l'emprise paternelle. Et de ses longues pauses, et c'est un film qui va basculer dans un fantastique presque à la Edgar Poe, dont je ne comprends toujours pas pourquoi il dure 2h10. Je crois que tu ne l'as pas vu, Daniel, Eric.
Moi, je comprends même pas pourquoi on l'a fait, ce film. C'est affreux. Ils sont tous mauvais, sauf la maison, qui joue bien. Une espèce de manoir à la Marc Dorcel, mais hélas, il y a aucune scène érotique. Il ne se passe strictement rien. Olivier Gourmet, qui est un bon acteur, mais là, il est calamiteux, il pique des colères qui sonnent absolument faux. L'histoire est navrante. C'est vraiment le genre de film où tout le monde a compris ce qui se passait, sauf le personnage principal. On a envie de lui dire, mais regarde, il y a encore une heure de film, t'as pas encore compris. Et je compte sur Pierre. Non, c'est épouvantable, je sais pas ce que fait ce japonais dans son pays avant, mais en France, c'est un harakiri qui nous offre. Là.
C'est Kiyoshi Kurosawa.
Oui, c'est pas le vrai. Et il y a une intrigue immobilière d'un ridicule achevé aussi.
Oui. C'est Malik Zidi qui joue l'agent immobilier. Pierre.
Le petit Kurosawa, c'est quand même pas. Non, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Ça, 2h05.
2h10.
2h10.
Non, je regarde 2h10.
C'est trop long. Mais moi, je trouve que, comme il l'avait fait dans ses films précédents, il filme les fantômes avec beaucoup, beaucoup de talent. C'est-à-dire que ce sont des fantômes, en plus, qui sont souvent bénéfiques. Ils effraient un peu, mais ils sont là.
Oh non, ils effraient pas du tout.
Non, mais si, l'épouse.
Mais il ne faut pas les voir, les
l'épouse
fantômes.
L'épouse.
La morte.
Oui, la morte effraie un tout petit peu. Mais en fait, l'autre, l'héroïne, justement, c'est ça son talent, c'est de montrer qu'entre les vivants et les morts, il n'y a vraiment pas de différence et qu'on ne sait pas avec qui on vit, des vivants ou des morts. Et ça, je trouve qu'il le fait assez habilement. C'est trop long, mais il y a un charme et un mystère. Tu as parlé d'Edgar Poe, oui.
Alain.
Et il y a quelques scènes que je trouvais. J'aime les films de fantômes. Il y a le problème, c'est que le plus fantomatique du film, c'est le scénario, qui est totalement spectral. Alors on ne sait pas du tout ce qu'il raconte. Et cette histoire d'immobilier,
oui,
il se perd là-dedans.
On comprend pas très bien.
C'est vraiment en dehors. Sinon, le côté Edgar Poe vient un peu des films de Corman. D'ailleurs, il faut bien le dire, c'est-à-dire de la maison Houchère, maison, et de cette extraordinaire chambre photographique à soufflet qui est grande de taille humaine. Mais on ne sait pas ce que ça raconte.
Toutes ces scènes-là.
C'est un éloge du daguerréotype.
Oui, tout à fait.
Je ne l'avais pas vu au cinéma depuis très très longtemps. Hein.
Ça nous manquait, d'ailleurs.
Hein. Mais ça, c'est passionnant. C'est très bien fait.
C'est bien fait.
Ça demandait des pauses
Oui, c'est des tortures. C'est des tortures.
Des heures. Non, mais le problème des histoires de fantômes, c'est que ça ne peut se terminer d'une seule façon. C'est par la fin de la malédiction. Or là, c'est une histoire de fantômes qui commence. Donc,
mais
ça ne peut pas être
un continuer. C'est ça qui est bien. Il
va y avoir une suite.
Mais non, c'est ça qui est bien, c'est que ça continue.
La fin.
Il va faire ça. Il va faire une vie. Voilà.
Et ben, c'est Le secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa, voilà, on a le temps de conseiller, tout à fait, des films que vous avez aimés et que je n'aurais pas mentionné ce soir. On va commencer avec Daniel.
Alors moi, c'est la sortie en DVD, en Blu-ray, de l'extraordinaire voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, chez Gaumont Vidéo. En supplément, un long entretien avec Jean-Olé Laprune, un entretien extrêmement éclairant où il explique ce qu'il a fait, les rencontres qui ont jalonné sa vie. Et il dit une chose très jolie, Tavernier, il dit « La mémoire, ça réchauffe. Ce film, c'est un peu du charbon pour les nuits d'hiver. » Et moi, je dirais pour les nuits de printemps aussi.
Et il faut dire que le documentaire était assez long, je me souviens.
3h16.
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 C'est une très bonne idée.
Alors, en plus, il y a dans l'entretien avec Jean-Louis Laprune l'information que le film de 3h16, qui en effet est très 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 long, va être maintenant, pour la télévision, découpé en série. C'est-à-dire que ça va faire 8 films pour la télévision, donc il va remonter son film.
Si je peux me permettre, Daniel.
Oui, je t'en prie.
Dont le film va rester un tel, il a prévu de faire 8
oui,
séries complètement différentes, qui n'ont rien à voir.
Oui, c'est ça,
mais à partir de...
Oui, mais à partir
de... Il y aura, par exemple, un chapitre sur Ophuls,
du Vivier. C'est ça, mais à partir de, si tu veux, à partir des entretiens qu'il a eus et à partir des archives qu'il a.
Mais lui dit que c'est totalement différent.
Oui, mais enfin, c'est un remontage.
Bon, enfin, là, pour l'instant, on peut voir...
Voilà, la sortie en DVD et en Blu-ray du voyage à travers le cinéma français.
Documentaire de Bertrand Tavernier. D'ailleurs, un documentaire très autobiographique, parce que c'est quand même...
C'est un film de Tavernier aussi, voilà.
Voilà, il a grandi dans le cinéma. Éric.
Un drôle de livre sur Louis Jourdan qui vient de sortir aux éditions Séguier.
Louis Jourdan,
oui. Olivier Mine, qui était un des animateurs de Fort Boyard. Et Louis Jourdan, moi je pensais qu'il était mort depuis très très longtemps. Et il est mort en 2015, il vivait à Los Angeles. Et Olivier Mine allait l'interviewer 2 ou 3 fois par semaine, lui faire raconter sa vie. Il y avait sa femme qui était là, qu'il avait épousée dans les années 40, dans cette grande maison d'acteurs hollywoodiens, avec une piscine dans laquelle plus personne ne se baignait jamais, avec la gouvernante qui parlait pas un mot de français, qui se détestait avec la maîtresse de maison. Et c'est un livre très très curieux, très très fantomatique.
Il n'y a jamais aucun livre sur Louis Jourdan, je suis sûr.
Ben, je crois pas, non. Parce que c'était sans doute pas un très bon acteur, mais là, on voit que ce type a connu tout Hollywood, était une vedette énorme. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a droit à la une du Times avec le plus bel homme du monde. Et il est d'une modestie, il s'ennuyait partout. Il disait, mais j'ai pas envie de sortir, je préfère rester à lire un livre ou à jouer aux cartes tout seul. Et il y a un côté presque George Sanders du type qui a vécu toute sa vie et il a fini par tourner dans un James Bond, Octopussy.
C'est chez qui,
c'est chez Séguier, c'est un livre très étonnant. Et les rapports de cet Olivier Mine et de Louis Jourdan...
Je regarderai différemment Fort Boyard maintenant.
Ouais, tu vois. Ben moi aussi, je le regarderai enfin.
Ouais. Le conseil d'Alain.
J'en ai deux. Il y a le film de Keaton, Des fiancés en folie, qui ressort. Alors c'est un merveilleux Keaton, c'est un long métrage qui est assez court, qui dure 1 heure, dans lequel Buster Keaton sera milliardaire s'il se marie avant la fin de la journée, et il est poursuivi par 1000 épouses qui se font d'ailleurs écraser par des rochers. Il y a quelque chose d'un peu misogyne.
Un peu misogyne, oui, c'est très très drôle.
Il est ravi.
Il est enchanté, là.
Si vous aviez vu le film, vous seriez aussi absolument enchanté. C'est une merveille. Et puis un film un petit peu plus sérieux, mais rigolo quand même, qui s'appelle « Tomber du ciel », qui est un film libanais de Wissam Sharaf, qui raconte l'histoire d'un ex-milicien libanais qui ressurgit, et ça permet de revisiter l'histoire, c'est très intéressant.
Le conseil de Pierre.
Un premier film français qui s'appelle « Jour de France » de Jérôme Rébaud. C'est un road movie, enfin voilà, à l'aube, un jour, il y a Pierre qui quitte Paul, qui s'en va au volant de sa voiture au hasard, de la France et des rencontres. Paul, quand il s'en aperçoit, le suit. Donc, c'est une espèce de traque, comme ça. Et c'est vraiment un road movie, dans la mesure où on traverse la France. Et c'est fait de rencontres sexuelles, faut le dire, parce que Pierre cherche aussi des aventures, des mecs qu'il trouve sur son GPS, ultra perfectionné.
C'est du Girodis que tu racontes.
Oui, il y a un peu de ça. Mais aussi des rencontres tout à fait poétiques et bizarres. Ça rappelle un peu le cinéma de Paul Vecchiali, et surtout des disciples qu'il avait fait tourner dans les années 70, Jean-Claude Guiguet, Gérard Frocoutas, Jacques Davila. C'est des rencontres absolument originales, poétiques. C'est un premier film tout à fait étonnant.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Daniel Eman, Éric Nehoff, Pierre Murat, Alain Rioux pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lysiane Selam ce soir. Au Charles Trenet, à la technique, Olivier Dupré, Guillaume Ledu et Bastien Varigaud. La réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le jeudi 30 mars à 20h au studio Sacha Guitry pour deux émissions, l'une consacrée au film, l'autre au livre. On parlera de théâtre dans une semaine. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.